Le Ouadrabé ouvrira bien ses portes lundi prochain à l'IFOU. Le tribunal de commerce a décidé de prolonger de 6 mois la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Séance publique au Congrès, le projet de loi qui prévoyait entre autres l'ouverture à la concurrence des opérateurs satellitaires a été retiré de l'ordre du jour à la demande du gouvernement. Des procurations dématérialisées pour les électeurs qui ne pourront pas se rendre dans leur bureau de vote pour les élections municipales. Explication sur la procédure dans ce journal. En métropole, les mouvements de gauche ciblent de l'entrisme islamiste. La commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport. Vers une renégociation du Mercosur, l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux d'Amérique latine, l'Italie rejoint en effet la France dans le rang des pays concessionnaires. Et puis du football et un 6e titre cette saison pour le PSG. Les Parisiens ont battu les Brésiliens de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. L'ADECAL est devenu le GIP Technopole, un changement de statut adopté il y a quelques jours mais qui ne change pas la vocation de cette structure, chargée de faire le lien entre la recherche, notamment sur la valorisation des ressources naturelles et leur développement économique. Nous en parlerons ce midi dans les Jeudis de l'économie avec son président Samuel Népéoun, avec un zoom sur la filière crevette. Nous serons en effet également en compagnie de Jean-Louis Chautan, le directeur de l'usine Provendrie Saint-Vincent, de Pascal Lepitre, le directeur de la SOPAC. Nous recevrons également Chloé Sagli Ben, du cluster Valorga, spécialisé dans la valorisation des déchets organiques. Un Jeudi de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. L'hôtel Ouadrabé à l'IFOU ouvrira bien lundi. L'annonce a été faite ce matin par la SODIL à la sortie du tribunal de commerce qui examinait le dossier de Gigadex, la filiale qui gère l'hôtel de l'IFOU. La structure aurait pu être placée en liquidation judiciaire en raison des multiples reports de l'ouverture de l'hôtel. Mais pour faire face aux difficultés budgétaires, la SODIL, qui détient 95% de Gigadex, a emprunté 600 millions de francs, de quoi permettre le lancement de l'activité sans le groupe intercontinental. Écoutez Jacques Dralu, le président de la SODIL.
Le tribunal de commerce donc, a statué aujourd'hui donc, la poursuite de l'exploitation. Et donc pour nous, ça veut dire l'ouverture le 22 décembre, donc lundi prochain. Et donc on part sur une nouvelle période d'observation de 6 mois. C'est ce que nos avocats avaient demandé au tribunal qui a été accepté. Donc, on est très satisfait de la décision. Pour nous, ça nous permet donc de protéger l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir tranquillement. Les dettes, elles sont maîtrisées. Je veux dire, les créanciers donc, ne vont pas venir s'impliquer dans l'exploitation. Donc on va pouvoir donner toute notre énergie à l'ouverture de cet hôtel.
Oui, le site et la page Facebook du Ouadrabé ont été mis en ligne pour les réservations. Les tarifs affichés sont compris entre 22 500 et 32 500 la nuitée. La SODIL devrait présenter les offres de lancement cet après-midi. Les élus du Congrès réunis depuis ce matin boulevard Vauban. À l'origine, les conseillers devaient examiner 2 projets de loi du pays, mais l'ordre du jour, Lionel Sabot, a été modifié dès l'ouverture de la séance.
Oui, Jean-François, le premier projet de loi du pays intitulé « Pour une meilleure connectivité en Nouvelle-Calédonie » prévoyait, pour résumer et surtout pour faire simple, entre autres l'ouverture à la concurrence des opérateurs satellitaires. Le second projet de loi concernait, lui, la réaffectation provisoire de la taxe sur l'électricité pour contribuer au financement du système électrique. Finalement, les conseillers n'ont examiné que le texte sur l'électricité. En effet, le projet de loi du pays sur la connectivité a été retiré de l'ordre du jour en ouverture de la séance. Retrait à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On se souvient que le texte qui devait être proposé avait été vivement critiqué par certains syndicats de l'OPT. Nous en avons parlé hier et ce matin encore dans nos différentes éditions. Le texte retiré de l'ordre du jour, les élus ont donc très longuement débattu sur le deuxième texte à l'ordre du jour, le projet de loi du pays réaffectant provisoirement la taxe sur l'électricité pour contribuer au financement du système électrique, débat extrêmement technique et finalement un vote favorable des élus. La séance se poursuit en ce moment même. Les conseillers doivent encore examiner des projets de délibération. L'un porte sur la taxe pour le développement et la promotion du tourisme de croisière. L'autre sur la programmation relative aux orientations stratégiques en matière d'habitation et d'urbanisme. En direct du boulevard Vauban, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lionel Sabot, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et même si le texte a été retiré de l'ordre du jour du Congrès, notre question du jour demeure. Êtes-vous favorable à la fin du monopole de l'OPT pour les connexions Internet satellitaires ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le gouvernement a eu tort d'abandonner le projet de loi sur la consultation des Calédoniens, faute d'une majorité au Parlement. Ils sont 11% à penser à l'inverse qu'il a eu raison d'abandonner ce projet de loi. Et nous allons maintenant prendre la direction du vice-rectorat où l'on retrouve Léo Fichou. Après les épreuves dites de rattrapage, on connaît depuis quelques minutes, Léo, les résultats définitifs du bac 2026.
Oui, Jean-François, le vice-recteur Didier Vimbatich a parlé de résultats convenables, solides, qui sont en légère hausse par rapport à 2023, année de référence, hein, puisque l'an dernier, en 2024, le baccalauréat était en contrôle continu. Dans les détails, 3091 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat cette année en Nouvelle-Calédonie. 2509 lauréats, donc sur l'Académie de Nouvelle-Calédonie, 81,2% de réussite, tout baccalauréat confondu. C'est en hausse de 0,5 points par rapport à la session de 2023. Du côté des mentions, les mentions très bien et bien diminuent. En revanche, les mentions assez bien sont en augmentation. On notera dans la voie générale un taux de réussite qui s'élève à 92,7%, moins 1,1 point par rapport à 2023. Du côté de la voie technologique, les résultats progressent. 4 points de plus par rapport à 2023. Enfin, dans la voie professionnelle, 853 candidats ont réussi l'examen. Un taux de réussite qui s'élève à 68,5%, soit 0,5 point de plus par rapport à 2023. Et puis cette année, un nouveau baccalauréat a vu le jour sur le territoire, le baccalauréat français international au lycée d'Ikukewe et La Pérouse. 36 candidats et 36 admis, soit un taux de réussite de 100%. Enfin, notez que les résultats du brevet des collèges seront publiés demain après-midi à 14h. En direct du vice-rectorat, Léo Fichou, RRB.
Merci Léo. Et notez que le vice-recteur Didier Vimbatich sera en direct dans notre journal ce soir à 17h45 pour commenter les résultats de ce bac 2026.
Radio Rythme Bleu, 11h37.
Le Mondor adopte son budget primitif. Les élus étaient réunis hier soir. Dans le contexte économique si particulier que la Calédonie traverse depuis plus d'un an et demi, c'est un budget contraint qui a été voté, Nicolas Legrand.
Oui, un budget primitif 2026 d'un peu plus de 4 milliards de francs. 3 milliards 122 millions en secteur de fonctionnement et 940 millions en secteur investissement. Un budget construit autour de 4 axes, nous a dit Elisabeth Rivière, le maire du Mont d'Or, qui était notre invité ce matin à 7h30.
Notre budget a été bien sûr construit autour des 4 grands piliers. La sécurité, le développement économique, la vie associative et la vie citoyenne. Pour nous, ce sont des piliers qui sont importants. Nous avons poursuivi, bien sûr, ce qui avait été fait pendant toute cette mandature. Mais compte tenu de tout ce que l'on a traversé depuis le début de cette mandature, et comme nous avons, bien sûr, changé de maire et que j'ai pris le relais, eh bien, il me paraissait aussi important de mettre de nouveaux axes parce qu'ils sont essentiels pour répondre aux besoins de la population.
Ce dernier conseil municipal de l'année au Mont d'Or aura été marqué par quelques passes d'armes entre l'exécutif et l'opposition. Le groupe Génération NC a voté contre ce budget primitif 2026 en raison du projet de nouvelle caserne de pompiers. Écoutez Nina Julier, chef du groupe Génération NC Mont d'Or hier soir.
On apprend dans ce budget que le projet de caserne des pompiers a été modifié. Il était prévu au départ qu'il y ait une caserne au niveau de Saint-Michel et que la caserne actuelle dans le sud de la commune soit rénovée. Vous connaissez au Mont d'Or le problème de la route de Saint-Louis et des blocages récurrents et c'est pourquoi il nous fallait 2 points pour la caserne, pour que tous les mondoriens puissent avoir accès à la sécurité de la même façon. Or, nous apprenons que finalement, c'est une nouvelle caserne qui va être construite à quelques mètres de celle qui existe pour un budget de 600 millions, alors qu'on aurait très bien pu et avoir une annexe dans le Nord et avoir un commissariat de police digne de ce nom parce qu'aujourd'hui les conditions dans lesquelles ils travaillent sont déplorables, tout en rénovant la caserne actuelle. Et c'est à chaque fois des choix qui sont en dehors du contexte et qui ne prennent pas en compte la réalité que nous vivons. Et c'est pour ça que nous nous sommes opposés.
Et ce matin sur Radio Rythme Bleu, Elisabeth Rivière a répondu à l'opposition et défendu son projet.
Le centre de secours était positionné auparavant sur le secteur de Saint-Michel, à côté de la gendarmerie. Compte tenu des événements qui se sont passés, nous tirons l'expérience et surtout la demande de la population de la partie sud pour avoir un centre de secours beaucoup plus opérationnel et plus efficace et plus moderne. Donc nous avons décidé de positionner ce centre de secours à proximité de l'ancien.
Sur la route de la Corniche,
parce que le centre que nous avons aujourd'hui est un peu obsolète. Je voulais juste revenir sur les habitants du Nord. Ils ne seront pas pénalisés sur la sécurité parce que nous avons des conventions avec les autres communes de l'agglomération et notamment la ville de Nouméa et la ville de Dimbéa. Et nous avons aussi l'appui de la sécurité civile.
Et ce matin, nous avons également demandé à Elisabeth Rivière si elle était candidate aux élections municipales de mars prochain. Elle n'a pas répondu à la question, indiquant qu'il y avait un temps pour tout et que le mois de décembre était le moment des fêtes de fin d'année et non de la campagne. Une interview à retrouver sur notre site internet, le www.rrb.nc.
Le conseil municipal de Nouméa s'est également réuni hier soir. Les conseillers ont adopté plusieurs rapports relatifs aux sociétés d'économie mixte locale et sociétés publiques dans lesquelles elle est actionnaire. Ils ont aussi approuvé la signature de conventions avec la province sud pour permettre la poursuite de la voie verte. Elle nécessite des aménagements entre le carrefour Almameto et l'échangeur de Tina, a expliqué le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Cette voie verte qui est une piste cyclable où on avait toujours voulu relier les quartiers nord jusqu'aux boucles de Tina, les quartiers du 6e, du 7e. Donc ça se concrétise parce qu'on n'est pas propriétaire de l'ensemble des voiries, bien sûr. Il a fallu qu'on travaille de concert avec la province sud qui est propriétaire d'un certain nombre de voies. Ça y est, ça s'est concrétisé, donc on va faire des travaux, parce que je crois qu'il était temps de relier ces quartiers. On ne peut pas faire que pour le sud, bien évidemment, puisque on a recommencé les travaux sur la piste cyclable qui va aller de Nguéa jusqu'au centre-ville. Et donc, il fallait faire la même chose pour le nord. C'était un peu compliqué, puisqu'on ne possède pas la voirie, mais ça y est.
Il a été aussi question lors de ce conseil municipal de la reconstruction du mur d'escalade de Magenta détruit par incendie lors des émeutes de mai 2024. Il sera reconstruit sur le terrain en face de celui sur lequel il était installé. Sur les 5 milliards que les assurances ont versés à la mairie, 200 millions sont affectés à cette reconstruction. La Ligue d'escalade recherche les financements complémentaires auprès de l'Agence nationale du sport. Il est 11h42, une première pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Sur la route, chaque choix compte. Adoptez les gestes essentiels. Ne prenez pas le volant si vous êtes alcoolisé. Parce que conduire sobre, c'est se protéger et protéger les autres. Boire avant de conduire est dangereux. Ceci est un message du COSODA, Comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Vivez au rythme de Noël avec la ville de Nouméa.
Jusqu'au 23 décembre, un spectacle quotidien au kiosque à musique et un marché de Noël artisanal Place de la Marne, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, feront vibrer petits et grands.
Le 24 décembre, le Père Noël arrivera à bord de son traditionnel char pour récupérer les clés de la ville des mains du maire.
Et jusqu'au 30 décembre, la fête de la lumière fera briller la place des Cocotiers tous les soirs de 19h à 23h.
Retrouvez le programme complet des animations sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la magie de Noël.
Samedi 20 décembre, de 9h à 21h, c'est Noël devant la province sud, baie de la Moselle. Des dizaines de jeux, des spectacles, des animations, le Père Noël et ses mascottes vous attendent. Tout est gratuit. Un super food court vous proposera de quoi vous régaler, seule la restauration est payante. Le programme et le plan sur province-sud.nc/Noël.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec les faits divers et quatre personnes interpellées à Ducos dans un accamal. La direction territoriale de la police nationale et en coordination avec la gendarmerie a mené une opération anti-stupéfiants. Quatre individus ont donc été interpellés. Des produits stupéfiants ont été découverts puis saisis. Cette intervention s'inscrit dans une action continue de lutte contre les activités illégales et de protection de la population. De son côté, la province sud dresse le bilan de Coaching Cadre, un dispositif d'accompagnement des cadres qui ont perdu leur emploi après les émeutes de 2024. 58 personnes ont pu bénéficier de ce coaching individuel et d'ateliers collectifs. Plus des trois quarts d'entre eux ont retrouvé un emploi ou créé leur entreprise. Un bilan supérieur aux objectifs de l'institution. Les Français, les Calédoniens comme tous les Français, sont convoqués pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Le Haut Commissariat les invite d'ores et déjà à prendre leurs dispositions, surtout s'ils ne peuvent pas se rendre dans un bureau de vote le jour J. Cette année, la démarche est presque entièrement dématérialisée, Charlotte Coulson.
220 000 Calédoniens pourront faire entendre leur voix ces 15 et 22 mars prochains. Qu'ils soient en Calédonie ou ailleurs, cette année, le site maprocuration.gouv.fr permet aux électeurs de réaliser leur démarche majoritairement depuis leur ordinateur, même s'il faudra tout de même se rendre en commissariat de police, en brigade de gendarmerie ou en consulat pour finaliser la demande. Grégory Évrard, le directeur des élections au Haut Commissariat, nous détaille la procédure.
D'abord, vous allez cliquer sur le bouton « Je suis électeur de Nouvelle-Calédonie ». Vous allez être dirigé vers NC Connect. À partir du moment où vous avez cette identité numérique, eh bien, vous allez pouvoir faire votre procuration à la personne de votre choix. On va poser un certain nombre de questions. Quel est le numéro d'électeur de la personne à qui on donne procuration, son nom, son prénom. Et à la fin des fins, vous allez avoir en fait un numéro. Ce code, il faut le garder précieusement. Avec ce code, la personne qui donne procuration va aller dans la gendarmerie ou dans le commissariat le plus proche. La personne qui a donné procuration donne sa pièce d'identité. L'officier de police judiciaire vérifie que la personne qui a donné procuration et que la personne qui donne la pièce d'identité sont bien les mêmes. Et à partir de là, en fait, le dossier va partir directement à la commune.
Moins de manipulation, donc moins d'erreurs, moins de risques de perte. C'est l'électeur qui garde la main sur toute la démarche jusqu'à l'envoi du dossier par l'officier de police judiciaire. La commune prend ensuite le relais. Grégory Évrard insiste, il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire sa procuration.
Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Quand la commune elle reçoit votre dossier électronique ou papier, eh bien, à un moment donné, elle doit engager un travail. Notamment, à un moment donné aussi, faire des additifs sur la liste électorale. Et donc, parfois, réimprimer la liste. Ça peut être extrêmement complexe. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Pas deux jours avant le scrutin, parce que il y a un risque, hein, quand on fait le jour même, même si la réglementation le permet, il y a un risque à ce qu'en le faisant le jour même, la commune n'ait pas le temps d'enregistrer la procuration.
maprocuration.gouv.fr, c'est une démarche simple et en ligne. Vous pouvez toujours consulter le site du Haut Commissariat en cas de doute. D'ailleurs, sachez qu'il ne vous reste plus que 2 semaines pour vérifier votre inscription sur les listes électorales. La démarche est simple, vous pouvez vous rendre sur le site électeur au singulier-nc.fr ou vous rapprocher de votre mairie.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et c'est la dernière ligne droite de cette opération au cœur de Noël, vous le savez, pour offrir des jouets aux enfants des familles en difficulté. Dernière ligne droite parce que la collecte s'arrêtera samedi soir. Vous avez déjà été très très nombreux et on vous en remercie à manifester votre générosité en passant à la radio pour déposer des cadeaux. Ils sont déjà transmis à nos associations partenaires, la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Parmi les très très nombreuses personnes qui sont passées, hier, Laura est venue avec son fils.
On est venu avec des cadeaux parce que les temps sont durs pour tout le monde. Donc il y en a pour les filles, les garçons, il y a des livres, des Barbie, un petit train. Mon fils a grandi et chaque année on apporte pour des gens qui sont plus malheureux que nous. On trouve que c'est beau ce que vous faites, RRB.
Votre générosité s'est déjà manifestée de façon admirable, on vous en remercie. Mais vous pouvez continuer à venir jusqu'à samedi soir à la radio pour déposer vos cadeaux. Ils seront donc transmis aux enfants pour cette fête de Noël. On compte encore sur votre générosité. RRB qui est ouvert tous les jours de 7h à 19h. L'actualité dans la région et en Australie, l'auteur de la tuerie de Bondi Beach est encore en vie, pardon, est sorti du coma. Il avait été blessé lors de son interpellation alors que son père, l'autre tireur, avait été tué. Les policiers australiens lui ont signifié les 59 charges retenues contre lui. En attendant, les Australiens continuent de rendre hommage aux victimes. Jean-Pierre Zajac.
Plus de 3 jours après la tuerie qui a endeuillé la communauté juive d'Australie, la foule était toujours aussi dense et l'émotion toujours aussi palpable la nuit dernière à Bondi Beach, dont le célèbre pavillon est devenu un mémorial en mémoire aux 15 victimes de la tragédie. Les premières de ces victimes ont été enterrées hier, d'autres suivront aujourd'hui. Les policiers ont, quant à eux, attendu que l'un des 2 auteurs du carnage sorte du coma pour lui notifier les 59 charges qui ont été retenues contre lui, dont 15 sont relatives au meurtre des 15 victimes du massacre. Le second tueur avait été abattu sur place par la police dimanche soir. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on va se retrouver pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde dans un petit instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Besoin d'une carte de paiement tout de suite? Avec la carte Flash de Bibank, vous repartez instantanément avec. Et le Bibank Car arrive près de chez vous, tourné dans toute la Calédonie. Rendez-vous le jeudi 18 décembre au marché communal de Kwawa, de 8h à 15h. Info 30 55 10 et 71 40 23. Bibank, on fonce avec vous.
Réartech, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartech, la transparence au service de vos projets.
Évadez-vous au Faramédée. Passez une journée inoubliable avec l'équipage souriant de Maridé. Téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Le 24 décembre, Païta vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud de 14h à 20h. Balade en petit train de 14h à 17h, puis animation festive jusqu'à l'arrivée du Père Noël à 19h. Un moment magique à partager en famille avant le grand soir. Le 24 décembre, Païta fête Noël. Venez nombreux célébrer la magie des fêtes.
Ho 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 !
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole et après plusieurs mois de travail et de nombreuses auditions, la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes a rendu son rapport. Plus de 600 pages qui décrivent sans surprise l'extrême gauche comme étant la cible privilégiée pour l'entrisme islamiste. Et la France insoumise est particulièrement visée. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Même s'il est précisé qu'aucun parti n'est à l'abri d'un entrisme qualifié d'insidieux, c'est bien LFI qui est épinglé. Le rapport fait état d'une proximité, voire d'une collusion entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et l'islam politique, tous deux instrumentalisant la lutte contre l'islamophobie ou la défense de la cause palestinienne, selon Mathieu Bloch, le rapporteur de la commission d'enquête.
De nombreux témoignages le confirment, une stratégie de captation électorale existe. Cette stratégie produit mécaniquement une complaisance envers des acteurs islamistes dès lors qu'ils apparaissent comme des prescripteurs.
Et le rapporteur de citer entre autres l'invitation à l'Assemblée par LFI d'associations émanant des frères musulmans, mais aussi le soutien à des écoles communautaires dans le Rhône ou tout simplement l'appel de prédicateurs islamistes notoires comme Annie Ramadan ou Vincent Souleyman à voter la France insoumise.
Ce n'est pas la défense des musulmans qui est en cause, ni même le fait de vouloir chercher cet électorat. Cela n'a absolument rien d'illégal. Ce sont des complaisances, parfois naïves, parfois calculées, envers une idéologie hostile à nos valeurs qu'il faut identifier, dénoncer et y remédier.
Le rapport contient 32 recommandations qui devraient faire l'objet prochainement d'une proposition de loi.
La démission du maire de Chessy en raison parisienne, refusée par la préfecture. Olivier Bourgeot, maire d'Hiver Droite, avait démissionné avec ses adjoints car il refuse de célébrer le mariage d'un homme sous OQTF. Il encourt 5 ans de prison s'il refuse de célébrer ce mariage. C'est donc la raison pour laquelle il avait démissionné. Il est soutenu par une grande partie de la population de sa commune, d'autant plus que l'homme qui souhaite se marier aurait dû être expulsé depuis 3 ans.
Moi, je le trouve courageux et je le soutiens à 100%. Quelqu'un qui est sous OQTF, il ne devrait pas être en France, donc il ne devrait pas avoir le droit de se marier.
Il représente notre ville. Je trouve ça normal qu'il ait son mot à dire et qu'il puisse avoir le choix. Mais en l'occurrence, là, il ne l'a pas, vu qu'a priori, il a dû démissionner à cause de ça. Ce n'est pas au maire d'en subir les conséquences. Ça devrait être dans la loi, tout simplement.
Je trouve ça aberrant. On avait quelqu'un qui était interdit sur le territoire. Il est resté. Il y a beaucoup de laxisme. La justice décide des choses. Je crois que la justice est aussi laxiste. Existe par moment. C'est pas appliqué, la preuve.
Et le maire de Chessy, dont la démission a donc été refusée, ne sait pas encore s'il va célébrer ou non ce mariage. Le retour de François Fillon sur la scène publique. L'ancien Premier ministre a accordé une interview au Figaro. Il commente la crise politique actuelle dont il attribue la seule responsabilité à Emmanuel Macron, avec lequel il n'est pas tendre. Jacques Serret.
Pour François Fillon, Emmanuel Macron n'a que deux solutions s'il veut une clarification. Soit il choisit de dissoudre, soit il remet son mandat en jeu. Et l'ancien Premier ministre a un avis sur la meilleure option. À la place Emmanuel Macron, dit-il, je tirerai les conséquences de l'état du pays et donnerai ma démission pour ne pas faire perdre 18 mois au pays. 18 mois, soit 78 semaines, et ce temps coûte cher. Emmanuel Macron, c'est 1 milliard de dettes supplémentaires par jour ouvrable, constate l'ex-candidat à la présidentielle. En 2017, j'ai appelé à voter pour lui. Jamais je n'aurais pu imaginer que 8 ans après, le pays soit dans une telle situation, regrette-t-il. Mais le groupe LR à l'Assemblée, présidé par Laurent Wauquiez, en prend également pour son grade. « Je suis atterré », lâche François Fillon. Une partie de la droite donne le sentiment de vouloir chercher un compromis à tout prix pour survivre au sein d'un bloc central que les Français rejettent. Un compromis qu'il qualifie de contraire aux intérêts de la France, car la mission de Sébastien Lecornu est, dit-il, impossible. Selon lui, seul le retour devant le peuple peut nous sortir de cette impasse.
Et dans cette interview, François Fillon estime que le barrage républicain contre le Rassemblement national réclamé par certains à droite serait un déni de démocratie. Les agriculteurs maintiennent la pression dans le sud-ouest. Ils sont toujours opposés à la politique d'abattage systématique d'un troupeau lorsqu'une tête est contaminée par la dermatose bovine, maladie non transmissible à l'homme. 3600 manifestants sont recensés. Ils continuent de boucler plusieurs axes routiers et entendent prolonger leur mouvement au moins jusqu'à Noël. En revanche, ils devraient être plutôt satisfaits concernant le Mercosur, cet accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux d'Amérique latine. Accord que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, voulait signer samedi au Brésil. La France souhaitait le report de cette signature et elle a reçu l'appui de l'Italie qui rejoint les pays insatisfaits par cet accord. Arthur Delaborde.
Giorgia Meloni dit non à l'urgence imposée par Bruxelles. Pas de signature du Mercosur en l'état. Pour l'Italie, les garanties agricoles ne sont pas verrouillées. Contrôle phytosanitaire insuffisant. Fonds de compensation encore théorique. Réciprocité absente pour les producteurs européens. Rome se range ainsi derrière la ligne française. Conséquence, une minorité de blocage se dessine. France, Italie, Hongrie, Pologne. Plus de 35% de la population de l'Union. Assez pour bloquer le texte. Berlin et Madrid, très favorables au Mercosur, perd de la main. La Commission européenne, elle, est prise de court, contrairement à ce qu'elle espérait. Sa présidente Ursula von der Leyen ne pourra pas signer l'accord samedi lors de son déplacement au Brésil. À Paris, le ralliement italien est perçu comme un succès stratégique en pleine crise agricole. Emmanuel Macron n'a pas manqué de souligner ce matin en Conseil des ministres que la France s'opposerait de manière très ferme à un passage en force de la part des instances européennes. Pour autant, l'accord n'est pas abandonné, mais son calendrier se prolonge et la renégociation est désormais inévitable.
11h57, une nouvelle et dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive. On parlera notamment de ce nouveau titre pour le PSG. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour un Noël plein de rires et d'aventures, Décathlon vous propose des idées cadeaux pensées pour toute la famille. Sport, jeux, plein air et loisirs. De quoi vivre de vrais moments ensemble. Déballez, jouez dans vos deux magasins Décathlon Quartier Alma et Décathlon à Pogoti.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849 Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74B047688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Cet été, offrez-vous un moment détente au Ramada Nouméa. Accès piscine plus déjeuner pour seulement 4000 francs adultes et 2000 francs enfants. Plongez, relaxez-vous et profitez. Réservé au 23 90 00. Ramada Nouméa, le bonheur sous le soleil.
Global Parts à Ducos fête son premier anniversaire. Le spécialiste de la pièce automobile de qualité à petit prix fête ses 1 an et vous fait des offres encore plus folles. Pendant tout le mois, 30% de remise sur l'ensemble du magasin. Pièces, pneus et accessoires. En plus, rendez-vous dans notre magasin de Ducos et tentez de gagner un barbecue à gaz ou l'un des autres cadeaux en jeu. Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Règlement complet sur place. Global Parts, le spécialiste de la pièce auto pour les pros et les particuliers. 30 rue Hervouet à Ducos. Plus d'infos sur notre Facebook Global Parts NC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Cette année, laissez la magie de Noël vous transporter en Provence avec Panier d'essence. Sélectionnez vos cadeaux parmi nos parfums. Soins corps, soins visage et senteurs envoûtantes pour la maison. La magie de Noël vous attend en boutique au complexe La Promenade à Lanzvata ou sur panierdessence.nc.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec trois infos sport, on va commencer par le Paris Saint-Germain sur le toit du monde. Ce matin, les joueurs du PSG ont en effet remporté la Coupe intercontinentale aux tirs au but face aux Brésiliens de Flamengo. À la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Et le héros de cette finale, c'est Safonov, le gardien du PSG. A en effet arrêté 4 pénaltys lors de la séance des tirs au but. Écoutez son capitaine Marquinhos.
C'est très important dans ce moment d'avoir un gardien comme ça qui peut nous assurer. Pour féliciter aussi le travail de tout le staff. On n'a pas fait notre meilleur match, mais on a fait un bon match quand même. Sous un accident, un pénalty, ils arrivent à revenir sur le match. Et c'est final, c'est une finale, ça se joue comme ça. Je pense qu'on a eu plus d'occasions, on a eu plus de ballons. C'était pas notre meilleur match, mais je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. C'est une finale, ça se décide dans les détails. Ça a été jusqu'au pénalty, c'est décidé par là.
Et cette saison, le PSG réalise donc un historique sextuplé, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe de l'UEFA, de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des Champions et donc de la Coupe Intercontinentale. Côté féminin, on jouait ce matin la 6e et dernière journée de la phase de Ligue de Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais a écrasé l'Atlético Madrid 4-0 et se qualifie directement pour les quarts de finale. Le Paris FC s'est incliné 2-0 contre le Barça et devra passer par les barrages. Enfin, le PSG, qui était déjà éliminé, a fait lui match nul, un but partout sur la pelouse du Benfica. Et puis le football, toujours, mais en Calédonie cette fois-ci. Et Léo Fichou, c'est désormais officiel. Angelo Fulgini va jouer pour la Nouvelle-Calédonie.
Oui, un nom qui circulait depuis quelques temps déjà. Et c'est ce matin sur les réseaux sociaux que la Fédération Calédonienne de Football l'a annoncé. À 29 ans, le milieu de terrain offensif, formé à Valenciennes, passé par Angers, Mayence ou encore le RC Lens, évolue aujourd'hui en prêt en Arabie Saoudite à Al Tawan. En 10 matchs, il a inscrit 2 buts, délivré 6 passes décisives. Né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'un père français, d'une mère calédonienne, Angelo Fulgini a porté les couleurs des sélections jeunes françaises avant de choisir de représenter la Nouvelle-Calédonie. Un choix important qui intervient à un moment clé pour les Cagous qui, je le rappelle, disputeront en mars prochain les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026.
Merci Léo, midi et une minute, c'est la fin de ce journal.